VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
17h à Bamako, 18h à Bangui. Bienvenue dans notre journal d'information. Dans l'actualité africaine aujourd'hui, reprise des activités ce mardi à Bangui. La capitale centrafricaine était paralysée hier par une journée ville morte, observée à l'appel de la société civile. Mobilisation pour exiger le départ de la MINUSCA du pays. Le point sur place avec notre correspondant Freeman Sipila.
Aujourd'hui, la circulation a repris sur les principales artères de Bangui. Les marchés ont rouvert, de même que les institutions bancaires et stations-service. Seule la reprise des classes était encore perturbée. Craignant de nouvelles tensions, les parents n'ont pas voulu libérer leurs enfants pour se rendre dans les écoles. Pour la société civile qui a annoncé mardi une trêve dans sa mobilisation, la journée d'hier a été une réussite malgré les morts et les blessés enregistrés. Hommes politiques et leaders communautaires sont unanimes sur l'expression du ras-le-bol du peuple, mais sont toutefois en désaccord sur la demande du retrait de la MINUSCA. Pour Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA en Centrafrique, exiger le départ de la mission onusienne est une demande inappropriée. Sur l'incident meurtrier du lundi impliquant les casques bleus, M. Onanga a annoncé l'ouverture d'une enquête mixte. Le bilan officiel de la journée ville morte de ce lundi fait état d'au moins 4 morts et 14 blessés, dont 5 soldats de l'ONU. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et c'est dans ce contexte de violence que la France dénonce les provocations et attaques contre la force de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique. Paris réaffirme son soutien à la MINUSCA. L'Union des syndicats du Tchad a décidé d'observer une grève sèche même dans les hôpitaux après 2 mois d'arrêt de travail avec service minimum. Sur la liste des revendications des grévistes, les arriérés de salaire des mois de septembre et octobre, le 13e mois pour tous les travailleurs, les pensions des retraités et surtout l'annulation des mesures tendant à geler les primes et indemnités de recherche des enseignants-chercheurs. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, ancienne première dame, a refusé de comparaître à son procès à Abidjan. Ses avocats avaient annoncé la veille qu'ils suspendaient leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Plus de détails avec Anastasie Tudiech.
Selon le procureur général Ali Yeo, Madame Gbagbo a fait dire qu'elle ne pouvait pas venir à la barre en conformité avec la décision de ses avocats de suspendre leur participation. Le juge a donc suspendu le procès pour le reporter au 3 novembre, mais rien ne dit que la situation aura changé d'ici là. Pour Maître Ange-Rodrigue Dadjé, avocat à la défense, c'est au juge de prendre leurs responsabilités. Les avocats de Mme Gbagbo avaient demandé hier à entendre Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Jeannot Kouadio Ahoussou, ancien premier ministre, et bien d'autres personnalités qu'ils jugent indispensables à la manifestation de la vérité. Cette requête a été rejetée par le juge. Les avocats de Mme Gbagbo ont donc suspendu leur participation. Madame Gbagbo comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan. Elle est accusée de crimes contre l'humanité. L'ancienne première dame purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Et direction la Corne de l'Afrique, les islamistes somaliens Chebab ont mené ce mardi une double attaque meurtrière en Somalie contre une position de la force de l'Union africaine et à Mandera au Kenya où il y a eu au moins 12 morts. Le point avec Nanit Talani.
L'attaque du Kenya a eu lieu tôt ce matin dans une ville frontalière de la Somalie. Selon l'administrateur en charge de la sécurité dans la région du nord-est kényan, Mohamed Saleh, ce mardi matin, une bombe artisanale a explosé dans l'hôtel Bicharo à Mandera. Au moins 12 personnes ont été tuées. Tous les occupants de l'hôtel ont été évacués et 6 ont été sortis vivants des décombres. En Somalie, l'attaque au camion piégé a visé une position de la force de l'Union africaine à Beledweyne, dans le centre du pays. Un kamikaze a frappé le camp avec un véhicule rempli d'explosifs. Les Chebabs ont revendiqué les 2 attaques via le site de leur station Radio Andalus, affirmant avoir tué 15 personnes et ajoutant que l'attaque du Kenya s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles dans le nord-est du pays à majorité musulmane.
Suite de la catastrophe ferroviaire au Cameroun, une enquête judiciaire a été ouverte suite à cet accident qui a coûté la vie à 79 personnes. Le train assurant la liaison Yaoundé-Douala a déraillé vendredi près de la ville d'Esséka. Génocide rwandais, le procès en appel de Pascal Sibikangwa s'est ouvert aujourd'hui devant les assises de Bobigny, près de Paris, 2 ans après sa condamnation à 25 ans de prison. Il s'agit du premier Rwandais condamné en France pour sa participation au génocide de 1994. D'autre part, en Suède, le parquet et la police ont annoncé l'arrestation mardi d'un Suédois d'origine rwandaise de 48 ans, soupçonné de génocide. Et au Rwanda, en 1994, son identité n'a pas été dévoilée. Selon un communiqué de la police, il a été interpellé à l'aube à son domicile, à 160 km à l'ouest de Stockholm. Arrivé en Suède en 1998, il a été naturalisé en 2006. De son côté, le parquet a indiqué ne pas pouvoir donner davantage de précisions sur les faits reprochés. Les vengeurs du delta du Niger revendiquent la destruction d'un oléoduc de la compagnie Chevron dans le sud du Nigeria. L'attaque intervient à quelques jours de pourparlers prévus avec des membres du gouvernement pour faire cesser les actes de sabotage contre les installations pétrolières du pays.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et le reste de l'actualité dans le monde. Au Pakistan, 61 personnes ont été tuées et 118 blessées par 3 kamikazes lourdement armés ayant fait irruption pendant la nuit dans une académie de police à Quetta. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières cette année, après celle de Lahore en mars qui avait fait 75 morts et celle contre l'hôpital de Quetta en août dans laquelle 73 personnes ont péri. La plupart des victimes sont des jeunes recrues de l'école de police. Certaines ont été blessées en sautant par les fenêtres pour s'enfuir. Après l'intervention des forces de sécurité, 2 kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs. 2 groupes ont revendiqué l'attaque, les talibans pakistanais et l'organisation État islamique. Les premiers disent qu'elles visaient à venger la mort de leur moudjahidine dans le Punjab, et les seconds affirment qu'elle a été menée par 3 kamikazes de l'État islamique. L'armée pakistanaise l'a attribuée à Lashkar-e-Jhangvi, un groupe allié des talibans.
Les préparatifs pour isoler Raqqa, capitale de l'organisation djihadiste État islamique en Syrie, ont commencé simultanément à l'offensive internationale en cours sur la ville irakienne de Mossoul. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter. En France, c'est la colère des policiers. Ils réclament plus de moyens. Depuis une semaine, le mouvement ne faiblit pas. Une rencontre est prévue demain entre le président François Hollande et les syndicats. Salwa Jaafari.
Les policiers français ont lancé un nouvel appel au rassemblement demain devant l'Assemblée nationale. Le président François Hollande doit aussi recevoir demain les organisations syndicales de la police. Un fait rare et inédit, depuis plus d'une semaine, des centaines de policiers en tenue civile manifestent à Paris. Hier, ils ont battu le pavé de la place de l'Opéra au ministère de la Justice, place Vendôme. Des voitures de police en patrouille ont déclenché leurs sirènes en guise de solidarité. Des taxis, des autobus et des piétons ont également manifester leur soutien. Une attaque au cocktail Molotov contre 4 policiers le 8 novembre en banlieue parisienne a déchaîné ce mouvement d'humeur. Après une année d'état d'urgence, suite à une vague d'attentats, les policiers français réclament plus d'effectifs, plus de moyens matériels et des peines sévères pour leurs agresseurs.
La Commission européenne a donné son feu vert aujourd'hui à une nouvelle prolongation exceptionnelle de 3 mois des contrôles à certaines frontières intérieures de l'espace Schengen. Ces contrôles ont été réintroduits en 2015 par 5 pays confrontés à la crise migratoire. Un retour à la normale aux frontières européennes était pourtant prévu pour la fin du mois de décembre prochain. La Turquie persiste et signe, le gouvernement américain doit extrader Fethullah Gulen, un prédicateur autrefois proche du régime turc, mais accusé d'être l'auteur intellectuel du putsch manqué de juillet dernier. Ce mardi, le ministre turc de la Justice a exhorté Washington à remettre Gulen, qu'il a comparé à Oussama Ben Laden. L'officiel turc a fait cette déclaration peu avant de s'envoler pour les États-Unis, où il doit rencontrer son homologue Loretta Lynch, selon l'agence de presse pro-gouvernementale turque Anadolu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous dans 20 minutes pour notre tranche d'information Le Monde aujourd'hui. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.